Chers auditeurs, dans quelques jours, vous pourrez découvrir une série inédite de La Loupe consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. À 3 mois de la cérémonie d'ouverture, on s'est demandé comment réussir ces JO. Les transports sont-ils prêts à affronter les milliers de touristes? Le dispositif de sécurité est-il suffisant? L'enthousiasme sera-t-il finalement au rendez-vous? Pour répondre, on plonge durant 5 épisodes dans les archives des éditions précédentes, accompagnés des journalistes de l'Express. C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près.
Bonjour Charlotte, je peux entrer ?
Bonjour Maxime, oui, installe-toi, je t'en prie. Je rappelle pour nos auditeurs que tu es journaliste spécialiste de la tech à l'Express et je t'ai demandé de passer en studio avant l'épisode parce que je voulais qu'on fasse un petit point de vocabulaire pour que tout le monde ait les clés pour comprendre le dossier en une du magazine cette semaine.
Tu as raison, par quel terme tu veux commencer ?
Bien, je te propose de nous rappeler ce qu'est l'IA générative, par exemple.
C'est un système d'intelligence artificielle capable de générer du texte, des images, du son ou même des vidéos. En réponse à une requête. Cette requête, on l'appelle aussi prompt, il peut être plus ou moins complexe, mais il a surtout en fait, la possibilité de pouvoir être écrit en langage naturel, donc tout simplement du français ou de l'anglais, par exemple. C'est le principe de l'agent conversationnel ChatGPT, qu'on a tous plus ou moins testé, et qui se base donc sur un LLM baptisé GPT.
Un LLM, tu anticipes mes demandes, car c'est le deuxième point de vocabulaire que je voulais qu'on aborde.
LLM, c'est le diminutif de Large Language Model. Ce sont des programmes, des réseaux de neurones qui ont été entraînés sur des quantités massives de données. Donc on l'a dit, du texte, du son, de l'image ou même de la vidéo. C'est ce qui leur permet notamment de pouvoir générer une réponse donc à une requête, un prompt sur lequel il n'a pas forcément été entraîné. La précision est importante car c'est cette caractéristique en fait, qui la distingue des anciennes générations d'IA qui fonctionnait avec des règles assez figées, à partir desquelles il n'était pas possible de générer des réponses très pertinentes ou originales. Donc pour terminer, afin de vulgariser et bien de tout schématiser, une application comme ChatGPT, c'est un peu la voiture avec la carrosserie, ses options, son système de sécurité, et le LLM, eh bien, c'est le moteur.
Merci Maxime, on a tout ce qu'il nous faut pour aborder cet épisode, car dans son dernier numéro, l'Express se demande comment la France peut prendre une place clé dans l'intelligence artificielle, et plus particulièrement l'IA générative. Les défis sont nombreux, mais les retombées pourraient être décisives. L'intelligence artificielle dope la France, c'est le thème de notre podcast du jour. Et ta collègue du service tech, Anne Kagan, nous a rejoint en studio. Bonjour Anne.
Bonjour.
Si on s'est intéressé à ce sujet à l'Express, c'est parce que la sortie de ce dossier coïncide avec la publication d'un rapport très important sur l'intelligence artificielle générative.
Oui, c'est le rapport d'un groupe de Français experts. Il est question de comment s'imposer sur cette scène pour ne pas être à la traîne géopolitiquement. L'IA, c'est une révolution qui va disrupter la tech, mais aussi l'économie française dans son ensemble. Plus on a des entreprises qui pèsent dans le secteur, plus on peut influencer les normes. S'imposer sur l'IA générative, ce serait une manière de rattraper le temps perdu, corriger nos échecs, notamment sur Internet, qu'on a surtout laissé aux Américains.
En fait, l'IA générative, eh bien, remettre les compteurs à zéro. Aucun pays n'a vraiment de longue expérience en la matière. Tout le monde a été un peu surpris en fait, par la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Donc aujourd'hui, tout le monde se presse, une véritable course est lancée. Donc il y a les États-Unis, bien sûr, mais aussi la Chine, les pays du Golfe, l'Inde et évidemment énormément de pays européens. Et là-dedans, la France fait partie de ces acteurs qui comptent et elle a beaucoup d'atouts dans ce domaine pour briller.
Je vous propose qu'on passe en revue ces atouts. Quel est le premier ?
La formation académique. La France a un héritage scientifique d'excellence. Elle a des gens très bien formés en mathématiques. Et ça, c'est long à mettre en place. Donc, les pays qui ne l'ont pas ne vont pas pouvoir l'élaborer très rapidement. En revanche, il ne faut pas prendre cet atout pour acquis. Il faut amplifier, tripler le nombre de diplômés spécialisés dans l'IA selon justement ce fameux rapport dont on parlait plus tôt. C'est un grand chantier parce qu'il faut à la fois ouvrir des places et aussi donner envie aux étudiants d'y aller.
Parmi ces autres atouts assez naturels, le français est une des langues les plus parlées au monde et ça va se poursuivre en fait avec notamment la hausse de la démographie en Afrique francophone. Donc le français pourrait devenir l'une des langues les plus parlées dans le monde d'ici à 2050, ce qui est très pertinent pour l'entraînement des IA et développer des modèles qui soient le plus pointus possible en français.
Dans la loupe, vous nous parlez régulièrement de start-up françaises qui sont déjà bien implantés. J'imagine que ça aussi, c'est un atout.
Oui, en France, on dispose de plusieurs acteurs. Le plus connu d'entre eux est aujourd'hui Mistral, qui propose des grands modèles qu'on appelle de fondation, qui rattrapent en termes de performance ceux développés par OpenAI, l'entreprise qui est à l'origine de ChatGPT. Le modèle de langage le plus puissant de Mistral, actuellement, talonne celui du champion OpenAI, GPT-4. Mais il n'y a pas que Mistral, il y a tout un très bel écosystème système derrière. Un cabinet, Wavestone, a récemment comptabilisé près de 150 startups d'IA générative.
Puis il y a aussi des grands noms français dans l'IA, notamment Yann Lequin, qui est un des parrains de l'IA moderne, qui travaille chez Meta. Et aussi Joëlle Barral, qui est la directrice de recherche en IA de Google DeepMind, qu'on a pu interviewer d'ailleurs pour le dossier. Et puis tout cet environnement, il s'accompagne d'un contexte de financement très favorable.
Qu'est-ce que tu entends par là ?
C'est la Startup Nation d'Emmanuel Macron, en fait. Bien sûr, tous les problèmes n'ont pas été réglés, mais les mesures mises en place ont quand même permis à un très bel écosystème de startups françaises de naître, ce qui fait qu'aujourd'hui, la France attire beaucoup plus les investisseurs étrangers. Et là, aujourd'hui, dans le domaine précis de l'IA générative, on constate qu'entre 2019 et 2023, c'est la France qui a attiré le plus d'investissements en capital risque derrière les États-Unis, bon, qui sont bien sûr loin devant, et Israël. Donc, elle est en troisième position.
Pourtant, Anne, on dit souvent que les financements en France ne sont pas assez nombreux.
Alors oui, sur le financement, il y a encore beaucoup à faire. Les levées de fonds sont difficiles en France et en Europe quand on va sur des gros montants. Et on l'a vu avec Mistral, voilà, dès qu'on arrive sur des levées de fonds importantes, en général, ce sont plutôt des acteurs américains ou d'autres pays qui vont répondre. Ça, c'est très important que ça change pour qu'on puisse justement garder nos pépites tricolores françaises. Et certains préconisent d'ailleurs de réorienter l'épargne des Français vers le financement de l'innovation et notamment de l'IA.
Améliorer le financement et la formation, dans votre dossier, vous évoquez aussi l'importance pour la France de travailler sur les infrastructures liées à l'IA générative.
Oui, c'est là où le bât blesse. L'IA requiert en fait des équipements très concrets, des puces d'intelligence artificielle, des data centers, du cloud, des supercalculateurs. Et là-dessus, on est très en retard par rapport aux États-Unis notamment, mais aussi à la Chine. Donc il faut renforcer ces capacités pour que les startups françaises puissent croître correctement. Mais tout ça coûte très cher. On ne va pas pouvoir tout faire en France. Heureusement, on peut compter aussi sur nos partenaires européens pour aussi développer de la puissance de calcul qui puisse être partagé au sein du bloc. Mais il faut aussi se placer sur des innovations particulières, peut-être des segments de l'IA générative. Comme ça, même sans maîtriser forcément toute la chaîne, de toute manière, on aura notre siège à la table de l'IA mondiale.
L'autre chantier dont on nous a beaucoup parlé, c'est celui des data. En France et en Europe, c'est pas le Far West, ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les données, notamment les données personnelles des citoyens, contrairement à d'autres pays. Mais il faut pas non plus être dans une prudence excessive. Il faut quand même avoir des données pour nourrir les IA. Par exemple, on a des données de santé en France qui sont très intéressantes. Donc si on se met à tout cadenasser, on va se tirer une balle dans le pied.
Ne pas tout cadenasser, d'autant que l'économie française pourrait bénéficier des atouts de l'IA générative, et pas uniquement dans la tech, mais dans tous les domaines.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Maxime, Anne, je pense que pour beaucoup de nos auditeurs, l'utilisation de l'IA générative dans leur travail peut sembler très loin. Vous auriez des exemples de ce à quoi elle peut servir pour qu'on se rende un peu mieux compte?
Oui, alors il y a de très très nombreux exemples. Je vais en citer quelques-uns que je reprends notamment dans le dossier. On peut citer donc Alan, une entreprise d'assurance qui utilise l'IA générative en fait pour retranscrire des milliers de feuilles de soins qu'elle reçoit par mois. Historiquement, tout ce travail était fait à la main. Aujourd'hui, donc c'est l'IA et ça leur fait gagner énormément de temps et ça leur permet même de proposer un remboursement illico en moins d'une minute, dont l'intérim aussi. L'Express a discuté avec le groupe Adeco, donc qui aide les chercheurs d'emploi à se créer des CV via de simples instructions vocales. Donc c'est un CV maker qui permet donc à des personnes de notamment parfois éloignées de la langue aussi ou qui peuvent avoir des handicaps en fait de créer des CV facilement. Mmh. Et je cite aussi la fonction publique qui teste un outil de réponse donc aux usagers pour faire passer le délai d'attente moyen de une semaine à seulement 3 jours pour obtenir une réponse sur une information précise concernant des impôts par exemple ou autre chose. Donc voilà, les exemples sont vraiment non exhaustifs.
Et puis la France a une belle opportunité à saisir dans l'IA appliquée à l'environnement. En fait, le climat, c'est vraiment un exemple parfait de domaine dans lequel il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, ce qui est très difficile à faire pour les humains et ce qui est beaucoup plus facile pour les IA. Mmh. Et il se trouve qu'en France, on a des groupes très bien placés dans l'électricité, dans les services à l'environnement, par exemple EDF ou Veolia. On en a beaucoup. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant à monter dans le domaine de la santé.
Est-ce que l'utilisation de l'IA générative peut avoir un réel impact économique pour les entreprises françaises ?
Oui, grâce à des gains de productivité. Donc, c'est ce que j'expliquais notamment avec les exemples précédents. Plus on gagne de temps dans notre fonction, plus on a du temps pour faire autre chose, d'autres tâches qui peuvent être même parfois plus rémunératrices. Mmh. Donc c'est déjà très intéressant et c'est pas négligeable dans un contexte où la France est en panne de productivité et de croissance. Pour la croissance, c'est 1% seulement en 2024. Donc on en a plutôt besoin. Dans ce contexte, les promesses de l'IA générative sont alléchantes. L'économiste Philippe Aguillon, dans le rapport sur les effets de l'IA générative sur l'économie française, estime que celle-ci pourrait faire progresser le PIB de la France de 250 à 420 milliards d'euros d'ici 10 ans. Mmh. Sans compter de nouvelles opportunités, de nouvelles créations d'emplois spécifiques à l'IA générative.
On a une idée du temps que ça peut prendre pour être mis en place ?
On ne sait pas trop pour le moment. Alors, le premier réflexe a été de comparer ces potentiels bénéfices à ceux apportés déjà par l'informatique depuis près de 30 ans. Et en fait, plusieurs personnalités ont pointé du doigt le fait que ces gains de productivité pour l'informatique n'avaient été constatés finalement qu'une à deux décennies, donc après la diffusion des ordinateurs. Donc, il n'est pas forcément écrit que les gains de productivité des IA génératives soient plus rapides. Mmh. Mais la grosse différence avec aujourd'hui et l'IA générative, c'est que celle-ci semble en tout cas être adoptée de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant. Mmh. En fait, l'adoption se fait en quelque sorte par le bas, par les salariés qui, par exemple, se sont connectés sur ChatGPT quand il est sorti et ont pu découvrir ce qu'était un agent conversationnel, ce qu'était un prompt. Et donc, en se basant sur cette courbe d'adoption en fait, de ChatGPT, qui est littéralement la plus fulgurante de l'histoire, 5 jours pour atteindre 1 million d'utilisateurs, aujourd'hui, ChatGPT, il y a à peu près 100 millions d'utilisateurs par semaine, on peut présager que cette fois, la courbe d'adoption pour l'IA générative sera beaucoup plus rapide et donc que les gains de productivité associés vont être beaucoup plus rapidement palpables.
Maxime, tu parles de gains de productivité, de création d'emplois et de croissance, mais j'imagine qu'il y a aussi des défis, notamment sur l'emploi.
Oui, déjà, car une part des métiers vont disparaître. Mmh. Ceux qui sont les plus touchés par l'arrivée de l'IA générative, dont les tâches vont être le plus automatisées ou assistées par l'IA, sont menacés. Après, il va falloir aussi accompagner la transformation des métiers, ce ne sera pas indolore. Il faut que tout le monde s'approprie les outils de l'IA, comme pour l'informatique. Donc, il faut apprendre à prompter et ce n'est pas si évident. On me disait notamment que c'était comme une conversation avec un humain. Si finalement, on s'exprime mal avec quelqu'un face à nous, il ne va pas comprendre. Il dit « j'ai pas compris ». Là, c'est pareil avec l'IA et donc il formule de mauvaises réponses. Et on n'a pas les gains de productivité dont on parlait avant. Tout ça ne sert à rien. Et il faut faire comprendre aussi aux salariés que l'IA générative, elle ne sait pas encore tout faire. Mais il faut quand même déjà en apprendre, a priori, le principe.
Est-ce qu'il y a d'autres paramètres que les entreprises devront prendre en compte pour l'appliquer ?
En fait, l'IA générative, c'est pas encore un produit que l'on peut, prendre sur étagère, tout bien fait. Au sein d'une entreprise, il faut par exemple s'intéresser à la confidentialité des données. Quelle entreprise peut accéder à quelles données qui peuvent être parfois très sensibles, notamment dans la défense ou même la santé. Il faut éviter aussi, au sein même d'une entreprise, que tout le monde puisse accéder à des informations réservées, par exemple, à la direction, aux ressources humaines. Mmh. Et puis, il faut s'assurer que le langage, le modèle soit adapté à l'usage, à la culture de l'entreprise. ce n'est pas si simple. Et puis, il y a tout un tas de paramètres. Il y a évidemment le coût, la rapidité et puis l'impact environnemental qui est lié à l'usage de l'IA générative, notamment si on souhaite installer nous-mêmes un LLM, le mettre sur des serveurs, etc. Tout ceci demande de l'électricité, consomme, et donc ça peut avoir des impacts non négligeables.
Mais ce qui est clair, c'est que toutes les entreprises, toute l'économie française doit s'en saisir. Si on le fait, c'est une opportunité pour gagner de nouvelles parts de marché avec des offres qui sont plus sophistiquées, des entreprises qui sont plus efficaces. Et si nous, on ne le fait pas, les entreprises d'autres pays le feront à notre place et c'est elles qui, justement, gagneront ces parts de marché.
Comment l'IA peut doper l'économie française ? Merci Anne, merci Maxime pour votre analyse.
À bientôt.
À bientôt.
Anne Kagan et Maxime Recoquillet, journalistes spécialistes de la tech à l'Express. Leur grand dossier est à lire dans le magazine En Kiosque jusqu'à jeudi et retrouvez encore plus d'articles sur cette thématique sur l'express.fr. Chers auditeurs, l'abonnement numérique est en ce moment à 1 euro le premier mois. Et pour écouter tous les nouveaux épisodes de La Loupe, vous pouvez nous suivre sur les applications de podcast comme Deezer, Castbox et Podmust. Et si vous avez un message à nous faire passer, vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous écrire par mail à laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.